RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Les grandes gueules en direct sur RMC et à la radio, bien sûr, mais aussi à la télé. RMC Story, les grandes gueules qui repartiront en vadrouille la semaine prochaine. On sera à Lyon mardi, deuxième étape de notre Tour de France pour les municipales. À Lyon, avec une belle équipe, on sera au Palais de la Bourse pour cette émission. Il y aura Emmanuel de Villiers, Bruno Poncet et Barbara Lefebvre. Mais avant cela, nous serons au Salon de l'agriculture lundi au stand de la région Hauts-de-France. Vous pouvez venir nous voir, hein. On sera dans le hall 7 à l'étage, au deuxième étage, et on y sera de 9h à midi lundi pour retrouver cette plus grande ferme, la plus grande ferme de France. Les animaux, alors pas de vaches hein, cette année, mais il y en a d'autres, et puis les bons produits du terroir, et puis les agriculteurs pour dialoguer avec eux. Nous serons notamment avec Didier Giraud, bien sûr, lundi, l'éleveur de bovins DGG. Mais pour l'heure, nous allons continuer à débattre de l'actualité et revenir sur ce qui s'est passé avec la mort de Quentin et les conséquences politiques. Aujourd'hui, la question est de savoir si la France insoumise vous fait plus peur que le RN. Est-ce que la peur, en quelque sorte, a changé de camp? C'est aujourd'hui les insoumis qui font peur. Eh bien, à vous de venir débattre avec nous au 32-16. Tout d'abord, faisons un point sur l'enquête. Le collaborateur de Raphaël Arnaud, député insoumis, cofondateur de la Jeune Garde, a passé sa première nuit en prison. Comme les cinq autres qui ont été mis en examen dans la mort de Quentin, un septième individu a été passé sous contrôle judiciaire. Donc on voit bien qu'il y a un lien entre ce qui s'est passé, la Jeune Garde et la France insoumise. Ce qui fait dire à Gérald Darmanin qu'aujourd'hui, c'est plus possible de voter insoumis.
Ce coup de votons LFI pour faire barrage. Ah, voilà. Je pense malheureusement que les deux extrêmes se rejoignent. Je ne mettrai jamais le bulletin LFI dans l'urne.
Je me souviens d'un Gabriel Attal lors des dernières législatives qui expliquait qu'au second tour, il fallait voter LFI plutôt que RN, alors qu'on pouvait s'abstenir, mais il avait fait un choix. Alors est-ce que ce choix tient toujours? Est-ce qu'aujourd'hui, comme le disent certains même au Parti Socialiste, LFI, RN, c'est la peste et le choléra? Ou est-ce qu'il faut au contraire faire un choix et surtout faire barrage à la France insoumise? C'est ce que dit par exemple Bruno Retailleau. Emmanuel de Villiers.
Oui, il y a une différence de nature entre la France insoumise et le Rassemblement national. C'est ce qu'a dit Retailleau en parlant de cordon sanitaire à la défaveur de LFI, car, pour reprendre ses termes et les compléter, la France insoumise est un parti révolutionnaire, insurrectionnel, et je compléterai en disant séditieux. C'est-à-dire que derrière la drague électorale, il y a une volonté de ne pas respecter la démocratie. Il y a une volonté séditieuse. Elle est déjà ancienne. Le 21 septembre 2010, le président du parti Mélenchon disait, il faut quand même s'en souvenir, je suis le bruit et la fureur, le tumulte et le fracas.
Et les filles n'existaient pas en 2010, mais c'est pas grave, tu peux continuer.
Oui, mais c'est la même filiation.
C'est le parti de gauche.
C'est un peu précis quand même.
Je suis le bruit et la fureur, le tumulte et le fracas. C'est donc insurrectionnel, c'est donc un parti qui ne veut pas respecter la vie sociale normale française, et les Français sont pas prêts, ils ont leur maison, ils ont leur vie, leur famille. Et les révolutionnaires, alors sauf peut-être Henri Bann, mon cher Bruno, comme toi, mais ils sont pas majoritaires. Donc il faut maintenant que LFI soit marginalisé. Je rappellerai que Mélenchon en 2012 a fait 11%, 2017 plus de 19% et 2022 22%. Ils vont s'enfermer en ne voulant pas désavouer Monsieur Arnaud, parce que Monsieur Arnaud, il est au cœur de leur base militante. Ils vont faire preuve d'une fidélité politique qui va donc leur coûter très cher. Et moi, je pense que M. Mélenchon sera en dessous des 10% en 2027.
Ça semble effectivement incompréhensible que Jean-Luc Mélenchon ne coupe pas les liens avec Raphaël Arnaud, le député insoumis. Parce que c'est lui qui l'a mis en avant. Il avait mis en avant la Jeune Garde. Mais aujourd'hui, certains lui disent il faut faire le ménage. Il est accroché à sa stratégie. J'entendais M. Delogu hier, le candidat LFI de Marseille, dire que la Jeune Garde, c'était des types formidables, pas du tout violents. Enfin bon, on est sur une autre dimension, alors que les faits démontrent le contraire. Cette stratégie jusqu'au boutiste, est-ce que justement ça a pas poussé les Français à avoir de plus en plus peur que les insoumis arrivent au pouvoir, Joël Dagostini?
Non mais déjà, faut pas mentir, ça n'a pas commencé avec la mort de Quentin. Ce que vient de dire Monsieur Retailleau, il le pensait déjà, il le disait déjà avant ces événements-là. Donc dire que c'est la stratégie de Mélenchon face au député Raphaël Arnaud qui engendre cela, je n'y crois pas. À titre personnel, si on parle de vote. C'est-à-dire que si je me retrouve dans une élection, peut-être un second tour, imaginons un second tour, où j'ai LFI et RN. Moi, j'ai déjà dit que cette année, les prochaines élections, je ne voterai que par adhésion. Donc, je ne me sens pas concernée par une telle affiche, honnêtement. Et je crois que les Français, s'ils veulent de l'extrême droite, bah, qu'il l'ait leur extrême droite. Donc, moi, je ne participerai pas à un blocage qui va en dehors de d'idées auxquelles j'adhère. Déjà, de un. Deuxièmement, considérant la peur que je peux avoir, le trait d'égal, comme dit Monsieur Retailleau, entre LFI et RN, et il dit même pas égal, il dit pire. Pour LFI.
Bruno Retailleau dit que les Insoumis, c'est pire que le RN.
Eh ben moi, non. Je ne considère pas que LFI est pire que le RN. Je considère que la peste et le choléra, c'est le RN. Et pas peste d'un côté et choléra d'un autre. Je ne partage absolument pas les idées d'LFI. Et comme je dis, je ne voterai pas. Mais je ne considère pas qu'ils seront à égalité. Je veux juste rappeler les chiffres des violences attribuées à l'extrême droite sur ces 10 dernières années. Nous avons 10 à 15 homicides sur ces 10 dernières années. Attribué officiellement. Non, parce qu'on parlait aussi de l'ultra-gauche. Attention, je veux dire que nous avons 10 à 15 homicides attribués à l'extrême droite sur ces 10 dernières années. Sur 2025-2026, on a, la dernière fois que vous me disiez, non, c'était avant-hier. Si, nous avons Ismaël, Hicham, Frédérico. Nous avons 500 à 600 blessés attribué à l'extrême droite sur ces 10. Nous avons. Non, vous me laissez terminer. Vous me laissez terminer ou sinon je vais chercher une vache et je la mets là et elle parlera à ma place.
On a le droit de corriger si c'est faux.
Non, c'est pas faux. C'est pas faux.
C'est un crime raciste. C'est pas forcément attribué à l'extrême droite.
Ah bon. D'accord. Donc nous avons 500 à 600 blessés sur ces 10 dernières années attribués à l'extrême droite à cause de rixes. Tu veux me laisser finir. À cause de rixes de rue, d'agressions racistes et enfin les derniers chiffres de la DGSI, d'accord. Nous avons plus d'une dizaine d'attentats déjoués. Ce sont les chiffres de la DGSI, d'accord. Déjoués à l'extrême droite. D'accord. Et tout ça, c'est... Et ben justement, non. Tout ça n'est pas attribué au RN. Comme par hasard, quand c'est l'extrême droite, le RN n'est absolument soupçonne pas le RN.
S'il n'y a pas de lien.
Quand on me parle de peur, et que moi je pense violence, quand je regarde ces chiffres, moi je dis que si je devais avoir peur, ils sont de ce côté-là. Donc voilà.
Bruno Poncet.
Alors moi, grâce à Emmanuel De Villiers, j'ai certainement basculé les filles, moi qui l'ai jamais été et qui ai toujours refusé de l'être. Parce que quand je t'entends dire n'importe quoi comme ça, ça me donne envie d'être chez eux. Tu vois, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Tu vois, t'es pas un repoussoir pour les filles. En fait, t'es quasiment quelqu'un qui a été. Tu vas signer des contrats grâce à eux. Moi, ce que je veux juste dire, c'est que, comme je l'avais dit pour l'affaire Quatennens, moi, je pense que c'est une faute politique de pas avoir demandé à Raphaël Arnaud de démissionner. Comme ils ont dû demander à Quatennens tout de suite quand ça avait été acté qu'il avait harcelé sa femme et tapé sa femme, ils auraient dû dire tu te déconnectes toi-même, tu démissionnes. Ça fait garder un minimum de dignité, même quand t'en as pas, avoir tapé ta femme. Et Raphaël Arnaud, je pense, c'est une faute politique de le laisser, parce qu'aujourd'hui Raphaël Arnaud, moi je pense peut-être déjà par solidarité et puis par lien d'intégrité, mais en fait je pense que c'est une erreur politique parce que. Une fois que t'aurais coupé Raphaël Arnaud de ton dispositif LFI, eh ben après tu pouvais dire écoutez, nous quand il y a un problème, laisse-moi, intervenu de plus, reste là-bas tranquille, après on verra. Moi je pense que c'est une erreur politique parce qu'en fait en coupant Raphaël Arnaud en disant écoute tu démissionnes, après de dire regardez quand nous on a un problème, on n'est pas comme les autres, on ne garde pas des ministres comme Dati qui sont à l'heure actuelle à l'aube d'un procès, on ne garde pas des ministres qui sont accusés de harcèlement sexuel, on ne garde pas des ministres qui sont accusés d'un tas de trucs, nous on coupe tout de suite. Or, en ne le faisant pas, eh ben, ils se mettent au même niveau que les autres. Et évidemment, aujourd'hui, la Lali est sur eux. Et ça va pas s'arrêter. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, comparer l'extrême droite et l'extrême gauche, c'est pas compliqué pour Retailleau. Il vient d'avoir sa candidate à Marseille, nous expliquer que sa devise, c'est travail, famille, patrie. Je veux dire, en fait, le lien est vite fait.
Moi, je salue l'élan d'engagement en faveur de la France insoumise de notre ami Bruno Poncet, parce qu'ils vont perdre tellement d'électeurs qu'il faut effectivement qu'ils en trouvent.
Émilie, t'es avec nous au 32-16. Bonjour, Émilie.
Bonjour. Bienvenue dans les grandes gueules, vous nous appelez du nord de la France. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on a plus peur de la France insoumise que du Rassemblement national ?
Moi, personnellement, oui.
Pourquoi ?
Alors, parce que, quand, admettons, vous regardez les débats parlementaires, l'Assemblée nationale, moi, c'est le chaos, en fait, LFI. Moi, j'ai l'impression qu'ils sont tout le temps en train d'hurler, qu'ils n'écoutent personne. Ils ont parfois un discours qui est décousu. Aujourd'hui, je pense que l'extrême droite a bien travaillé et a polissé son image. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, pour la majorité des Français, moi, je suis désolée, LFI, ça incarne l'anarchie, en fait.
C'est-à-dire que le paradoxe, c'était...
Le bazar, ouais. Vous voyez, tous les gens comme moi qui respectent les règles. Moi, j'ai presque 50 ans. Je fais tout bien comme on me demande. Ça coche pas les cases, quoi.
Le paradoxe, Émilie, c'est qu'au moment où Marine Le Pen a tenté de dédiaboliser son parti, Jean-Luc Mélenchon, lui, l'a diabolisé. C'est deux stratégies différentes. C'est-à-dire qu'il y a une stratégie, d'un côté, on essaie de dédiaboliser pour essayer enfin d'arriver au pouvoir après plusieurs échecs. Et de l'autre côté, Jean-Luc Mélenchon, lui, théorise au contraire le fait qu'il faut être un peu un diable à gauche, très en colère, pour justement arriver au pouvoir. C'est vrai qu'il y a deux stratégies.
Ça fonctionne pas parce que
ça fait peur peut-être aussi.
Nous, ce qu'on a envie, franchement, le Français moyen qui travaille, qui élève ses gamins.
Voilà,
le Français moyen.
Il a pas envie qu'on lui renverse la table comme ça, oui.
Ben voilà, il en a marre. Je veux dire, vous allumez la télé, vous regardez les actualités. Il y a rien de sympa.
Mais attendez.
Il y a rien qui va. Et en plus, voyez, c'est du bordel ajouté au bordel. On a envie de calme. Et puis alors, moi je me dis aussi, l'extrême droite, je me dis qu'il y aura forcément des contre-pouvoirs. Voyez, il y aura forcément. Moi, l'extrême gauche, j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui peut canaliser l'extrême gauche. S'ils ont des bonnes idées, on ne les écoute pas parce que de toute façon, et puis ils n'acceptent pas le débat de toute façon. Je veux dire, vous ne pouvez pas discuter. Ils ont des idées tellement arrêtées.
C'est vrai, vous ne pouvez pas discuter avec eux.
Émilie, on n'a pas dû assister aux mêmes événements. Parce que quand vous me dites que LFI est anarchiste et c'est le chaos, excusez-moi, nous avons assisté à la dissolution de l'Assemblée nationale où LFI est le groupe composé avec LFI, le PS, etc., est arrivé en tête de ces élections.
Sans gagner,
mais ils sont arrivés. Mais c'est incroyable. Ils sont arrivés en tête de ces élections. J'ai pas dit qu'ils avaient gagné.
Mais grâce à l'alliance électorale.
Oui, très bien. Ils sont arrivés en tête. Malgré ça, on leur a entre guillemets enlevé cette victoire sous le nez, c'est-à-dire qu'on a nommé un premier ministre. Oui, d'accord. On a nommé un premier ministre qui n'avait rien à voir avec le groupe arrivé en tête, et ils sont partis s'asseoir sagement sur les bancs de l'Assemblée. Jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est incroyable.
Il y a eu une vague, je ne sais pas combien de motions de censure.
Ils sont partis. Oui, mais ça, c'est le jeu démocratique. Donc, Émilie vient de dire qu'ils n'étaient pas. Ils étaient antidémocratiques. Donc, ils font le jeu démocratique. Ils sont partis s'asseoir sagement sur les bancs de l'Assemblée. Mais incroyable. Mais c'est sage.
Émilie veut dire que la notion de tout conflictualiser, c'est insupportable et ça fait peur.
Non mais d'accord, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils n'ont pas...
Et ça, c'est la stratégie de Mélenchon.
Ils n'ont pas renversé la République.
Toute l'année.
Oui, mais ce que Émilie, elle ne dit pas qu'ils vont renverser la République, elle dit que le conflit permanent, elle-même, elle en peut plus.
On me parle d'anarchistes, excusez-moi. Ces gens-là sont arrivés en tête des élections.
C'était peut-être pas le mot à utiliser. Mais moi, c'est la bordélisation.
La bordélisation, en fait.
Et c'est comme ça tous les jours de l'année. Et on n'en peut plus. Je veux dire, vous travaillez, il y a du bordel partout. Plus personne ne respecte les règles. C'est pareil, moi, quand j'entends le permis de conduire, on veut l'assouplir. Mais non, parce que de toute façon, le français contourne toujours les règles. C'est pas possible.
C'est Olivier Truchot qui veut faire ça.
C'est le bien vivre ensemble. Et ça, franchement, il y en a marre.
Ça
va être génial.
Mais c'est pas ça. Mais
elle n'a pas dit qu'elle souhaitait l'extrême droite au pouvoir. Elle dit qu'aujourd'hui, la façon de tout rendre bordélisé, en fait, le débat, ça la fatigue.
Aujourd'hui, franchement, en tant que Français moyen, on a quel choix ?
Bah pour l'instant, on ne le sait pas.
Alors,
les élections
vous
sont
avez, perdues. Pour bah, moi, donc LFI qui représente la bordélisation continuelle, le
22%,
conflit permanent.
22% des Français.
Mmh. Ouais, le centre, moi, le centre où de toute façon, ils jouent leur place. Hein. Moi, je suis désolée. De la gauche jusqu'à la droite, on ne sait pas bien. De toute façon, ils jouent leur place. Hein. Tant qu'ils ont une place de ministre, tant qu'ils gardent leur mandat, tout va bien. Et puis après, vous avez l'extrême droite. Voilà les trois choix qui se présentent aux Français aujourd'hui. Hein. Donc on fait quoi? Franchement, moi je me dis, mais je vais me présenter aux prochaines élections avec... qu'est-ce que je vais bien pouvoir voter, en fait? Parce qu'en plus, même les alliances...
Non, mais en fait, lisez les programmes, parce qu'après, on peut parler, vous voyez ce que vous voyez à la télé, mais lisez les programmes. Après, c'est vrai que si vous avez raison, des fois, les programmes, ils sont écrits et personne ne les respecte, ça, c'est autre chose.
Ah bah oui, les belles promesses. Je veux dire, quand on écoute Emmanuel Macron en 2017, hein, il était plein de promesses. Regardez aujourd'hui.
Merci, Émilie. Peut-être parce qu'on attend trop des présidents aussi, mais enfin, ça, c'est un autre débat. Merci, Émilie. On attend un sauveur, et puis forcément, ça n'existe pas. Pour donc, ça, 3 mois
l'anarchie,
après,
l'anarchie, c'est une bonne solution.
Non, je pense qu'il y a mieux que l'anarchie quand même, parce que l'anarchie, pardon, mais ça, c'est nulle part, ça a fonctionné.
On n'a pas essayé.
Heureusement.
Reste sur ton projet de fiche R.
Ce qui est incroyable, c'est que tout le monde est tellement à genoux devant l'extrême droite que tu te retrouves à défendre LFI.
Ouais, surtout toi.
Ouais, exactement.
Surtout toi, ça c'est vrai.
Non, mais je te jure, je me retrouve à défendre LFI parce que tout le monde est tellement à plat ventre devant l'extrême droite que ça en devient ridicule.
Ouais, exactement.
Donc c'est vraiment dur quand tu vois en réalité où t'es plutôt nuancé.
Tu n'es pas obligé de défendre LFI, critiquer le RN sans défendre LFI.
Parce que c'est les seuls encore qui tiennent à 2 secondes la barre. Donc excuse-moi.
Allez, LFI, je suis
obligé. Mais
moi qui suis française moyenne, qui travaille, etc. Moi, je suis désolée, le programme d'LFI me plaît pas beaucoup, hein.
Mais vous le connaissez au moins. Attendez, non mais sans rigoler. Moi, je l'ai lu. Je peux vous garantir que le programme d'LFI, moi, il me plaisait beaucoup. Après, bon,
justement, c'est ça. Quand un cheminot dit ça.
Vous voyez, ce matin, vous parliez des impôts, il y a un moment donné, ça suffit. Moi, c'est mon mari qui travaille, on est dans les classes moyennes, entre guillemets, supérieures. Je veux dire, on parle de me taxer davantage.
Émilie, regardez, c'est tout simple. Vous venez de le dire, en plus. Regardez, le prochain budget, il est pas du tout éléphiste, il est fait par des gens de droite, d'extrême droite et tout, et puis là, votre mari, vous êtes encore plus payé d'impôts. Donc, en fait, regardez bien.
C'est la gauche qui a validé ce budget.
Ah, c'est quelle gauche qui a validé le budget? Je crois pas que ce soit éléphiste.
Mais non, il n'est pas éléphiste. Gauche,
parce qu'il n'y avait pas
gauche,
assez d'impôts.
Quelle droite,
quelle... Vous voulez taxe Zucman.
Enfin, et pour tous les auditeurs, réjouissons-nous que LFI soit en chute libre et qu'on n'ait pas Mélenchon.
Ça, c'est dans ton pays, c'est dans ton rêve.
On va continuer d'en parler et on passera un coup de fil au sage de la politique française, Alain Duhamel. On veut savoir ce qu'il pense de ça. Effectivement, est-ce qu'aujourd'hui, la France insoumise va faire plus peur que le Rassemblement national aux prochaines élections? À tout de suite sur RMC, RMC Story.
RMC. Alain Marchal, Olivier Truchot. Les grandes gueules. 1, 2, 3, 4.
La suite des grandes gueules sur RMC, RMC Story avec Bruno Poncet, notre cheminot, l'entrepreneur Emmanuel Devilliers et la coach de vie Joëlle de Gosséry, avec l'affaire Quentin et le jusqu'au boutisme de Jean-Luc Mélenchon qui ne veut pas lâcher Raphaël Arnaud, ce député LFI qui avait créé la Jeune Garde et rappelons-le, l'un de ses plus proches collaborateurs est aujourd'hui en prison, soupçonné d'avoir tabassé et peut-être tué Quentin puisqu'il y a des poursuites pour homicide volontaire et on se demande, Jean-Luc Mélenchon jusqu'au boutiste, ce qui fait dire à beaucoup de responsables politiques, aujourd'hui, on ne peut plus voter LFI. Il faut même mettre en place un cordon sanitaire autour des insoumis. On a même entendu un Bruno Retailleau nous dire que entre le LFI ou le RN, il choisissait plutôt le RN. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? On est en débat avec les grandes gueules et on va demander son avis à Alain Duhamel. Bonjour Alain.
Bonjour.
Alain, c'est vrai que les choses évoluent avec cette affaire Quentin. Est-ce qu'aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon n'est pas en train de devenir le nouveau Jean-Marie Le Pen?
Bon, alors, ce qui est sûr, c'est que l'attitude que choisit Jean-Luc Mélenchon fait tout pour le diaboliser. Et que le comportement de Jordan Bardella fait tout pour se dédiaboliser. Ça, c'est des deux côtés, c'est parfaitement clair. Jean-Luc Mélenchon assume totalement ce qu'il est, ce qu'il veut être et ce que sont ceux qui l'entourent. Et inversement, Jordan Bardella, lui, se présente presque comme l'agneau qui vient de naître.
Donc il y a deux stratégies différentes, mais est-ce que celle de Jean-Luc Mélenchon peut être payante dans le contexte actuel avec cette affaire ?
Alors, s'il s'agit de l'opinion publique en règle générale, évidemment non. S'il s'agit de ceux qui sont prêts à voter pour lui, je ne suis pas sûr que ça les décourage.
Mais est-ce que ça permet à Jean-Luc Mélenchon d'atteindre son but, si c'est celui-là, c'est-à-dire entrer à l'Élysée, s'il veut être président de la République ?
Écoutez, entrer à l'Élysée, vous savez très bien que c'est au-delà de l'improbabilité.
Ah bon ?
Bah oui.
Bah lui, ah bah moi je pensais qu'il était sincère quand il se présentait, qu'il pensait face à Bardella ou Marine Le Pen, il pouvait lui aussi espérer gagner.
Non, mais lui l'espère, lui le croit peut-être, lui en tout cas est prêt à mener une campagne qui serait d'ailleurs peut-être brillante parce qu'il a fait des très bonnes campagnes présidentielles. Donc tout ça est dans sa tête à lui, c'est tout à fait possible. Dans la réalité politique, ça me paraît extrêmement improbable.
Joël Dagosséry.
Oui, mais Monsieur Duhamel, j'ai une petite question concernant le député Raphaël Arnaud. Est-ce que vous pensez que le soutien de Jean-Luc Mélenchon, c'est un soutien stratégique sur le plan politique ou c'est juste de la loyauté, j'allais dire presque amicale ?
Oh, moi, ma thèse, c'est que Jean-Luc Mélenchon, c'est comme le pape. C'est-à-dire qu'il a dans sa tête le dogme de l'infaillibilité. Et donc, à partir du moment où c'est un député dont il a accepté l'investiture, il faut se le rappeler, à partir de ce moment-là, il va de soi que c'est un député sans peur et sans reproche.
Il ne peut pas se remettre en question, en fait. Emmanuel De Villiers.
Exactement comme le pape avec certains cardinaux contestables.
Alors, comme précisément on est en contact avec le souverain pontife de la politique sous la Ve République, une question tout en subtilité. Est-ce que, sans être dans le mauvais goût, les derniers événements qui vont précipiter quand même un tassement probable des intentions de vote pour Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle, est-ce que ces événements sont une bonne nouvelle pour le Rassemblement national ou plutôt une mauvaise nouvelle ? Je pense pour ma part, en apparence, c'est une bonne nouvelle.
On parle de la mort d'un homme,
quand même.
On parle de la mort d'un homme, une bonne nouvelle, la mort d'un homme.
Oui, okay. On parle de politique, on a le droit d'en parler.
Oui, c'est vrai, la mort d'un homme.
En apparence, c'est une bonne nouvelle, mais c'est peut-être une mauvaise nouvelle, puisque la disparition de Jean-Luc Mélenchon au second tour de la présidentielle laisse place à un autre candidat, pas vraisemblablement au centre droit, et donc toujours avec cette polarité de second tour, la difficulté pour le Rassemblement national de passer la majorité. Qu'en pensez-vous ?
Alors, je pense que c'est une hypothèse imaginable, mais avec un préalable absolu, qui est que entre, d'une part, les Insoumis et d'autre part, le Rassemblement national, il y ait une personnalité qui se détache et que les autres candidats potentiels acceptent de la soutenir. Est-ce qu'on en est là ? Évidemment, pas du tout. Est-ce que ça peut se produire ? Ça peut se produire, mais ça n'est pas du tout garanti. Il est probable qu'il y aura, évidemment, à gauche, un candidat communiste et un candidat, disons, socialiste ou social-démocrate. Mais y aura-t-il un seul candidat au centre et au centre-droit et à LR ? Il peut très bien y en avoir trois ou quatre. Alors, s'il y en a un qui s'impose nettement aux autres, il peut arriver au second tour. S'il n'y en a pas un qui se détache, mais vraiment de façon irrésistible, à ce moment-là, l'hypothèse d'un second tour Mélenchon-Bardella est possible.
Oui, je suis d'accord avec vous.
Bruno Poncet.
Moi, Monsieur Duhamel, je voudrais vous demander, les municipales arrivant dans quelques jours, vous pensez réellement que en ce moment, c'est ce qui se passe pour la France insoumise va jouer dans le fait que certainement beaucoup de maires pour se faire élire vont avoir besoin des voix insoumises. Et à mon avis, vont quand même les draguer, et que ça soit même la droite par certains endroits. Je rappelle quand même que Borne et d'autres ont été élus grâce aux voix insoumises. Et moi, je pense réellement qu'on va vite oublier l'histoire de Quentin et pour aller vite, très vite, se faire élire avec les voix des insoumis.
Je pense que les candidats qui peuvent espérer des voix des insoumises continueront à l'espérer, mais je pense qu'ils seront plus retenu dans la quête de ses voix. Et qu'il n'y aura pas du tout floraison d'affiches, etc., et de choses de ce genre, qui soient que dans des discours, ils fassent attention de ne pas les brusquer ou les heurter. Ça, c'est probable et même quasiment certain, mais qu'ils fassent appel ostensiblement à leur voix, je pense que ce qu'ils espéreraient gagner d'un côté, ils le perdraient mécaniquement de l'autre.
D'ailleurs, on voit bien que à la fois Marine Tondelier ou Olivier Faure, c'est assez embêté avec cette histoire, on les entend assez peu hein, en ce moment. On voit bien qu'ils sont gênés aux entournures.
Ils se hâtent de s'abstenir.
Voilà. Quand on les appelle pour les inviter, ils nous expliquent qu'ils sont en campagne. Ce qui compte, ce sont les municipales.
Bien sûr.
Merci Alain. Merci d'avoir été quelques minutes pour cet éclairage politique dans les grandes gueules. Bon week-end, Alain Duhamel. Ethan est avec nous au 32-16. Il nous appelle de Brest, dans le Finistère. Bonjour, Ethan.
Bonjour à vous, bonjour tout le monde.
Dites-moi, Ethan, est-ce qu'il pleut encore aujourd'hui ?
Oui, il pleut encore. On est encore en Bretagne, donc c'est la tradition, vous savez.
Oui, enfin là, c'est dingue. On atteint des records quand même. Hein. Bon, on se pose la question. Est-ce qu'aujourd'hui, la France insoumise fait plus peur que le RN ?
Non, je ne pense pas, et je pense qu'il est important de rappeler, comme Mme Dagosséry l'a fait, que la France insoumise est le dernier rempart contre le danger de l'extrême droite. Je rappelle que l'extrême droite, c'est l'assassinat de Jamel Benjabala, de Hichem Mirawi, de Clément Méric. C'est des projets d'attentat déjoués contre Jean-Luc Mélenchon et contre Médine. C'est même, personnellement, je tenais à le rappeler en tant que personne en situation de handicap, que c'est des menaces de mort proférées contre un député socialiste par un bloc d'extrême droite néo-nazi en faisant référence à un programme d'extermination néo-nazi.
Ouais.
Donc il y a un moment, alors peut-être que certains vont me dire que c'est pas lié au RN, et c'est vrai que c'est pas forcément des députés.
Non, mais c'est vrai que le RN a quand même évolué ces dernières années, faut le reconnaître.
Oui, ah non, on l'a vu avec les candidats qui nous ont sortis.
Le terme de dédiabolisation, il veut dire certaines choses. Le problème, c'est que le RN y participe parce que il ne se désolidarise pas de ce genre de personnes. Et quand on vous demande, si vous demandez à des gens qui sont de l'Action française ou de ce genre de groupe-là, ils vont vous dire que le RN, c'est pas forcément une mauvaise option. Donc moi, je considère que quand tu parles d'un groupe en disant que ça pourrait être tes potes, c'est que tu les soutiens. Donc,
et mais Ethan, reconnaissez.
En disant que l'islamophobie n'existe pas, que machin.
Non, mais reconnaissez, Ethan, que le Rassemblement national a voulu faire le ménage. Alors, peut-être pas complètement, mais ils ont écarté des candidats. Je rappellerai que Marine Le Pen a même viré son propre père, Jean-Marie Le Pen, ce qui était quand même assez inédit. Et qu'il y a une entreprise de dédiabolisation RN. Alors, peut-être en façade, peut-être l'admettre, mais de l'autre côté, au contraire, il y a une volonté, au contraire, d'être toujours plus dur, plus diabolique, en quelque sorte. C'est deux stratégies.
Moi, je pense que la France insoumise est victime d'une cabale politico-médiatique.
Ah bon ?
Oui, complètement.
Pardon, c'est pas nous qui avons inventé Raphaël Arnaud et la Jeune Garde.
Ça se traduit cette dernière semaine par des alertes à la bombe. Il y a un gars, il a claqué un salut nazi devant une permanence.
Oui. Non, mais ça, c'est inadmissible. Mais si, on en a parlé, rassurez-vous. Mais vous savez, les alertes à la bombe. Vous avez alerté à la bombe, beaucoup d'élus l'ont. Au moment de la réforme des retraites, ce sont les députés Renaissance qui étaient attaqués, etc. J'espère qu'à l'époque, les insoumis ont dénoncé aussi ces attaques. C'est-à-dire qu'ils les attaquent contre les permanences.
J'espère qu'on continuera à en parler quand
bien sûr. Dans tous les partis, c'est scandaleux.
Il y a des menaces de mort sur des militants depuis des jours et ça, personne n'en parle.
Bien sûr.
Personne n'en parle.
Mais si, on en parle.
J'apporte mon soutien à tout le monde, Manuel Bompard, Clémence Guettet. Tout le monde, je leur apporte mon soutien.
Vous-même, vous êtes militant, alors.
Contre l'extrême droite. Et que l'extrême droite veut la mort de tellement de gens qu'il faut faire rempart à l'extrême droite. Je suis désolé, il y a un moment, il faut arrêter de
On peut peut-être faire rempart au RN sans être insoumis aussi. Il y a pas que
En tout cas, tu veux pas être pour Taillon ni Darmanin, ils sont d'accord pour pas faire rempart à au RN.
Pardon, mais sur l'échelle. Pardon, je suis la seule personne qui a battu Marine Le Pen au deuxième tour, c'est Emmanuel Macron. Donc, je suis désolé, le rempart le plus efficace à Marine Le Pen ces dernières années, c'était pas Jean-Luc Mélenchon, c'était quand même Emmanuel Macron qui l'a battu deux fois. Il y a plein de coutures. Donc, je veux bien qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron, tout le monde le déteste, mais enfin, on va faire un peu d'histoire politique. Le seul qui a empêché Marine Le Pen, donc le RN arrive au pouvoir, puisque c'est ce qui vous inquiète, c'est Emmanuel Macron. C'est pas Jean-Luc Mélenchon. Moi, j'ai l'impression, au contraire, Jean-Luc Mélenchon, il nourrit Marine Le Pen, contrairement à ce que vous dites. Je pense que c'est l'inverse. Non. C'est-à-dire que plus il y a un Jean-Luc Mélenchon, plus Marine Le Pen se frotte les mains.
Moi, je pense qu'il faut être assez mou sur ses valeurs pour que, parce que Jean-Luc Mélenchon devient de plus en plus fou, entre guillemets, aller voter pour le RN. Il faut quand même être assez faible sur ses deux pieds. Hein.
Bon, en tout cas, on a posé la question, est-ce que LFI vous fait plus peur que le RN ? La question a été posée sur le compte compte X des Grandes Gueules. Et on remercie Ethan d'avoir été avec nous au 32-16. Et vous avez dit oui à 78,6%. Dans un instant, on a les préconisations d'un député pour renforcer la sécurité de nos musées, notamment du plus grand musée du monde, le musée du Louvre, qui est une véritable passoire, on l'a constaté.
Ils sont pas toujours, ils sont toujours pas virés, les patrons du Louvre.
Alors, madame Laurence Descartes, visiblement, elle est quand même sur le départ. Hein. J'ai cru comprendre qu'on cherchait un successeur à madame Descartes.
Il est jamais trop tard pour bien faire, c'est anormal qu'ils aient pas été virés, ils doivent être virés. Et demain matin.
Eh ben, on pourrait peut-être nommer Emmanuel Devilliers. Enfin, en tout cas, parmi les propositions, ça serait une entrée gratuite pour les policiers armés hors service dans les musées. Comme on a autorisé les policiers hors service à être armés dans le train. D'ailleurs, il y a un attentat qui a été déjoué. Est-ce que c'est une bonne idée? À tout de suite.
RMC. Alain Marchal, Olivier Truchot. Les Grandes Gueules.
Allez, c'est la dernière ligne droite pour les Grandes Gueules avec aujourd'hui Emmanuel Devilliers, l'entrepreneur, la coach de vie, Joël Dagossiri et notre cheminot préféré, Bruno Poncet. Je vous rappelle que lundi, on sera en direct du Salon de l'Agriculture, donc ne manquez pas ce rendez-vous. Les Grandes Gueules ne le manquent jamais. On est là chaque année au Salon. On sera sur le stand des Hauts-de-France dans le hall 7 à l'étage à partir de 9h. Si vous avez envie de venir nous saluer et d'assister à l'émission, bien sûr, vous êtes invité sans problème au Salon à partir de lundi 9h. Et puis mardi, on est à Lyon. Et ça, on aura l'occasion de vous en reparler. Pour terminer cette dernière heure ensemble, on va parler des préconisations d'un député après le casse du musée du Louvre. C'était il y a 4 mois. On n'a toujours pas retrouvé les bijoux. Comment renforcer la sécurité de nos musées? Alors, parmi les préconisations de ce député, il y aurait la possibilité de permettre aux policiers d'entrer gratuitement dans les musées lorsqu'ils sont hors service, mais dans ce cas-là, ils auraient le droit de garder leurs armes. On a permis aux policiers récemment de le faire dans le train, c'est-à-dire qu'un policier qui part en vacances avec sa famille il prend le TGV, il a le droit de garder son arme avec lui. Ça a permis d'ailleurs de déjouer un attentat. Est-ce qu'il faut faire la même chose, c'est-à-dire que dans les musées, les policiers, alors je ne sais pas si les musées vont beaucoup, les policiers vont souvent dans les musées, etc. Enfin, en tout cas, ils pourraient garder leurs armes au musée. Est-ce que c'est une bonne idée?
Non, c'est une idée un petit peu
farfelue.
Oui, superflue.
Toi qui as dirigé des établissements,
déjà, ça pose un problème d'accès parce que monter avec une arme dans un avion ou donc dans un musée, c'est pas anodin. S'il y a des contrôles, il faut montrer l'arme. À ce moment-là, les autres visiteurs vont dire qu'est-ce qui se passe. Non, c'est pas eu égard au nombre de faits divers. Éventuellement grave qui se déroule dans les musées, c'est pas une idée légitime parce que une arme à feu, il faut en limiter le contexte d'utilisation et donc de port.
Ça serait un dispositif qui s'appellerait visiter et protéger. Et donc, ça s'inspire effectivement du dispositif qui existe déjà dans les trains. Joël Dagossiri.
J'ai pas compris. En fait, ils viennent en visite dans le musée.
Et ils ont le droit de garder leur arme.
Mais c'est quoi? Oui, mais c'est pas visiter et protéger, ça. C'est parce que t'as l'impression
si,
que.
Visitent.
En fait, ils doivent taffer pendant qu'ils font la visite. J'ai pas bien compris.
Non.
Mais c'est quoi le truc?
Alors, heureusement, c'est pas tous les jours. C'est pas tous les jours qu'il y a un casse. Mais si jamais ils sont là et qu'il y a des gens qui sont en train de voler des bijoux, ils pourraient intervenir. Et d'autant plus qu'ils auraient leur arme avec eux. Okay. Comme dans le train. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un policier qui est en week-end ou en vacances, il peut se balader avec son arme dans le train.
Mais moi, je suis pas choquée qu'un policier. Même hors service et son arme, parce que je considère que même quand il est en repos, il est policier dans le sens où il a les réflexes d'un policier, il a le discernement, je l'espère, d'un policier. Donc même s'il était hors service et qu'il avait son arme, il va pas jouer au cow-boy. Enfin, tu vois, je vois pas ça comme ça. Donc je trouve que y a aucun souci pour moi de ce côté-là, si ça peut aider. Mais encore une fois, je préférerais, parce que ça c'est toujours des solutions un peu de pour maquiller la misère. Moi, je préférerais qu'on ait une sécurité,
des agents de sécurité,
une vraie direction, un système informatique inviolable. Enfin, tu vois, des choses comme ça, pas juste des policiers qui sont autorisés à venir le dimanche en famille avec leur arme.
Ou à la limite, autoriser les gardiens de musée, les surveillants qui sont présents dans les grands musées, au port de matraque.
Oui, et aussi qu'ils puissent en faire usage alors, parce que.
Ou alors on autorise les agents de sécurité, parce que quand tu regardes les images qui sont dingues du CAS. C'est-à-dire que les agents de sécurité observent le braquage. Ils essaient d'intervenir. Il y en a qui prend un truc pour essayer de se battre. Il va pas plus loin. Et en fait, les agents de sécurité, on apprend à cette occasion, en fait, ils sont uniquement là pour protéger le public, c'est-à-dire gérer le public, mais pas du tout pour intervenir s'il y a un cambriolage, parce qu'ils sont pas armés, ils savent pas se battre. Enfin, j'en sais rien. Donc peut-être qu'il faut travailler sur le fait qu'on ait des agents de sécurité qui certes s'occupent du public, mais qui priorisent aussi le fait de protéger les œuvres.
Aussi sur les fenêtres. Enfin, je veux dire. Travailler sur les fenêtres. Comment c'est possible d'ouvrir aussi facilement une fenêtre au Louvre?
Ah, mais ils l'ont murée, cette fenêtre.
Oui, enfin voilà, mais je veux dire, tu vois, avant d'avoir des... Moi, je veux bien la solution, je la trouve pas bête, mais j'aimerais que réellement on travaille sur le fond plutôt que juste dire, ah bah oui, servir et protéger, enfin visiter et protéger. Enfin, ils ont toujours des slogans à la con, pardon, mais.
Bruno Poncet.
Je sais pas quel génie qui a pondu cette idée, mais elle est exceptionnelle. Et moi, j'imagine, tu sais, un policier qui va aller visiter un musée avec sa femme et ses enfants et son arme, et il se passe quelque chose. Et lui, il va se dire, bah c'est pas grave, j'ai mes enfants à côté de moi, je vais intervenir. Et puis si en face le mec il est armé, tirera dans ma direction et mes gamins sont à côté. C'est vrai que le mec dans sa tête il va se dire, aujourd'hui les policiers, on en a besoin dans d'autres endroits où je pense qu'il y a des zones de non-droit qui auraient besoin peut-être de policiers. Je pense qu'aujourd'hui le musée du Louvre, qui est quand même avec une subvention et un budget phénoménal, je pense qu'ils ont quand même assez de moyens pour remettre peut-être de la sécurité, peut-être un peu mieux formés et pas uniquement des mecs qui sont à l'accueil.
C'est préconisé, hein. Ils préconisent de mieux former les agents d'accueil et de surveillance. Aujourd'hui, en cas d'intrusion, ces agents doivent en priorité protéger les visiteurs. Bah là, il faudrait aussi qu'ils puissent intervenir.
Non, mais surtout, t'es en train de dire qu'un policier en échange de 20 balles pour lui, de 20 balles de la place du Louvre, le mec, faudra qu'il fasse le taf des gardiens qui sont payés à la journée peut-être 100 balles ou 150 balles. Non, mais t'es en train de te dire, là, je vois, non seulement on marche sur la tête, mais en plus, on prend vraiment les gens pour des cons. Moi, je rappelle quand même juste que t'es dans le plus grand musée du monde, avec des œuvres d'art qui sont exceptionnelles, et que quatre clampins avec un camion grue, ils arrivent à te voler sans passant par la fenêtre devant les gardiens qui ont peur d'intervenir. Là, on est au-delà des pieds nickelés. Je trouve aujourd'hui qu'en fait, pour cacher cette espèce de honte intersidérale d'avoir laissé faire ça, et puis surtout de ne pas avoir trouvé de solution et d'avoir laissé en place la directrice, d'avoir Dati qui t'explique que tout était bien,
Dati
tout était
carré. Partir, là,
ouais, mais elle va pas partir à cause de ça, alors que ça fait longtemps qu'elle a dû partir au moins à cause de ça.
Elle gère pas le Louvre, c'est pas elle qui a
Olivier, fait ça. C'est qui la ministre de tutelle de
oui,
ça?
Oui, d'accord, mais le Louvre, c'est, alors moi, ce que j'ai lu aussi, c'est que c'est un peu un état dans un état, le Louvre, hein. C'est-à-dire que, on les laisse faire, ils ont un budget énorme, et que Madame Descartes, elle avait tout pouvoir pour améliorer les choses.
Elle n'a pas vraiment fait
sur ce sujet-là. Même si elle dit contraire en disant qu'elle commençait. Mais pourquoi on n'arme pas les agents de sécurité?
Mais parce qu'Olivier armait quelqu'un.
Parce que sincèrement, quand tu revois les images, il suffisait que quelqu'un les mette en joue.
Oui, mais
ils auraient arrêté.
L'usage d'une arme à feu.
Oui, il faut quand même se réinventer.
Même pas un métier, c'est un art très dangereux.
Mais dans ce cas-là, tu les formes.
On aurait eu des morts.
Mais Olivier, nous, SNCF, on a nos agents de sécurité de sûreté.
Mais ils sont bien armés.
Ils sont armés, mais ils sont formés. Moi, j'en parlais hier, parce que j'étais avec des collègues là, au travail, j'ai discuté avec des collègues de la SUGE pendant toute la journée, et on discutait d'un tas de trucs, et en fait, eux, ils disent que des fois, ils ont des collègues qui arrivent, qui veulent à tout prêter à la SUGE, et qui, nos formateurs se rendent compte que le mec est dangereux à manipuler l'arme, il ne manipulera jamais une arme, en fait. Et là, les mecs qui font la sécurité, excuse-moi, mais ils ont un malinois, ils sont juste c'est pas leur métier. Hein.
On a Perrine qui est avec nous. Perrine, on la connaît bien. Vous êtes femme de policier, c'est ça, Perrine?
Femme de policier et policière moi-même.
Eh ben voilà, c'est ça. Et je me souviens, vous avez souvent intervenu dans nos discussions. Perrine, que pensez-vous de cette idée? Ben, peut-être que vous pourrez aller visiter le Louvre gratuitement, mais il faudra y aller avec votre arme de service.
Eh bien, c'est une idée un peu sortie d'un chapeau magique pour mettre des pansements là où faut pas en mettre particulièrement. Oui. En fait, on a le port d'armes hors service quand on est policier. Qu'on laisse les policiers rentrer dans les espaces publics avec leurs armes hors service. Comme dans les salles de concert, comme dans les supermarchés. Peu importe là où il peut y avoir...
Et aujourd'hui, c'est autorisé dans le train?
Oui, c'est autorisé dans le train avec une remise de billets, effectivement, de tarifs. Mais par contre, on doit présenter notre carte de réquisition au contrôleur et leur préciser qu'on est armé pour qu'on puisse intervenir si nécessaire.
Et si par exemple, et dans un concert, si vous allez au concert, c'est pas autorisé?
En fonction des services de sécurité, non.
Ouais, moi ça me choquerait pas, moi.
Normalement, ça devrait, logiquement, quand on a eu l'autorisation de porter l'arme en service, ça devrait être ouvert à tout espace public qu'un policier.
Pardon, mais au Bataclan, s'il y avait eu un policier armé, peut-être que ça aurait changé les choses.
C'est tout le débat.
Ouais, ça, c'est un débat qui mène à rien, parce qu'en fait, quand tu vois le commissaire de la BAC qui est rentré, il s'est fait engueuler déjà par sa hiérarchie.
Ah oui, il en a tué un.
Non, mais ouais, mais enfin bon, en attendant.
Ça s'est arrêté d'ailleurs.
Tu te rappelles qu'il y avait quand même Sentinelle devant avec des mitraillettes qui sont pas rentrées.
Bah oui, mais donc, oui, mais moi, je suis désolé. Moi, les policiers, ça me rassure. Moi, c'est contrairement à d'autres, ça fait pas peur.
Mais à un moment donné, Kalachnikov contre n'importe quelle arme, faut quand même se détendre un peu. Vous êtes pas, déjà, vous êtes pas formé. Et la BRI, là, et moi qui étais avec moi, la BRI.
Donc, il y a rien à faire.
Et le raid était un petit peu surpris. Ils ont pas très bien non plus. En fait, ce qu'ils ont vu n'avait jamais vu ça de leur vie. Donc, en fait, à un moment donné.
Oui, d'accord, mais maintenant, on sait que la menace est là. On sait que la menace est là.
Allons-y, on sait, mais à un moment donné, faut pas.
Il y a des types avec des couteaux partout. Moi, ça me rassure de savoir si le policier, même s'il est hors service, il a une arme. Il peut intervenir dans les transports, c'est assez rassurant.
Il est avec ses enfants et son arme. C'est ça, moi, qui m'inquiète un peu.
Périne, est-ce que vous pourriez venir au musée avec votre arme et des enfants?
Oui, bien sûr.
Vous auriez pas peur,
c'est pas forcément le contexte le plus appréciable, au même titre que de prendre le train avec son arme. La problématique étant que seul le fonctionnaire de police peut avoir le bénéfice de la remise de billets. Mais pour donner l'exemple concernant voyager protégé. Donc ça veut dire que par exemple, vous allez avec votre mari, votre femme et vos enfants, vous avez un billet remisé. Mais il se passe quelque chose, ok? Vous vous levez, vous intervenez, vous n'avez pas forcément besoin de votre arme pour intervenir. En général, juste la présence policière dissuade, hein, bien évidemment, on ne l'utilise pas tout le temps non plus, mais c'est une sécurité supplémentaire pour nous. Mais par exemple, si un individu doit être interpellé, il doit être débarqué du train, on l'attend à la gare prochaine, mais ça veut dire que ce n'est pas forcément votre trajet initial. Je ne sais pas, je vais vous donner
Paris-Bordeaux
ou un Paris-Marseille, vous faites une escale, je ne sais pas moi, à Lyon, ce genre de choses, du coup, vous allez devoir être débarqué sans votre famille, et ça, vous allez continuer. Une partie de la famille va continuer son voyage, mais pas vous. Donc forcément, pour ce genre de contexte, c'est pas forcément le plus pratique pour les policiers. Mais une visite de musée, s'il arrive quelque chose face à nous, un vol, une agression, le policier de toute manière doit intervenir.
Doit intervenir même s'il n'a pas d'arme. Merci Périne. Merci. Je vous interromps parce que je vois Estelle, Denis qui arrive. Estelle qui va nous dire très rapidement, parce qu'il reste 40 secondes, de quoi va-t-on parler entre midi et 15h. Estelle, bonjour.
Bonjour Olivier, bonjour les GG. On va parler de beaucoup de choses. Des milliers de personnes, 3000 personnes attendues à Lyon pour la marche en hommage à Quentin. Mais fallait-il interdire ce rassemblement? Jordan Bardella, d'ailleurs, invite les militants du RN à ne pas s'y rendre. On en débat avec vous dans un instant au 32-16. On parlera également de la culture de la flemme, repas tout fait, livraison, service à domicile. Est-ce qu'il faut arrêter avec ça? Et puis les vacances en solo, pour ou contre? C'est la grande tendance en ce moment.
Allez, bon après-midi à tous. Bon débat.